les entretiens cadres de ville sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes en direct à la CCI de Paris aux entretiens du cadre de ville et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Denis Giroux. Bonjour Denis Giroux.
Bonjour.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes directeur général de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane.
Absolument.
Alors ça nous fait très plaisir de parler de la Guyane. On en parlait hors antenne, peut-être un dom-tom dont on parle peu, le moins. Mis à part une visite du président il y a quelques mois, c'est vrai qu'on a peu parlé de la Guyane et de ses problématiques.
C'est vrai. La Guyane est le plus grand département d'outre-mer, hein, puisqu'il fait 84 000 km², sur la taille de la Nouvelle-Aquitaine, presque celle du Portugal. Pour autant, c'est le moins touristique. Donc je pense qu'on ne voit pas souvent dans les affiches dans le métro par rapport aux Antilles ou à La Réunion. C'est effectivement, du coup, on en parle peu. Et on peut regretter que quand on en parle, c'est souvent pour des trucs un peu négatifs, trafic d'or, trafic de drogue,
oui.
Ou des choses comme ça. Mais c'est un endroit magnifique, hein, de forêt amazonienne.
Oui, c'est ça, c'est sauvage, c'est vierge dans tous les sens du terme.
Absolument. Ce qui pose quelques problèmes pour l'aménager.
Exactement. Alors, avant de parler de ça, la Guyane, donc, c'est combien d'habitants ?
Actuellement, on a à peu près 300 000 habitants.
Et démographiquement, et vous disiez... 50% à peu près sous le seuil de pauvreté.
C'est ça. En fait, la démographie est galopante. Dans les années 90, il y avait 100 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 300 000. Ça fait une fois 3 en 30 ans. 53% des habitants sont sous le seuil de pauvreté, ce qui ce qui impose pour nous, hein, aménageurs, de pouvoir être réactifs, de pouvoir aménager par gros morceaux. Hein, une ZAC type de l'EPFAG, c'est 40 hectares, 1000 logements, 2 écoles, 1 collège. C'est vraiment la ZAC type. On en fait, là cette année on lance 2 par exemple de ce format là mais pour autant il faut faire des choses de qualité mais qui restent accessibles donc à une population qui est essentiellement peu fortunée.
Si on fait un état des lieux de l'équipement aujourd'hui en Guyane, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme constat?
En fait la Guyane manque de tout, je dirais, par l'effet mécanique de la démographie galopante et donc du retard d'équipement. Hein. Quand le centre spatial a été créé dans les années 70, il y avait 50 000 habitants. J'ai dit 100 000 en 90, 300 000 aujourd'hui. Donc on court en fait derrière les infrastructures. Et les infrastructures de base, donc type réseau routier par exemple, réseau électrique, sont à peu près soit essentiellement linéaires le long du littoral. Donc il y a très peu de maillage, très peu de sécurité. Et ça pose vraiment des problèmes d'engorgement des infrastructures existantes et de création en fait de nouvelles infrastructures pour à peu près tout. C'est pareil pour la santé, pour le scolaire, etc., le sport, la culture. Donc on est en fait dans une logique d'équipement,
okay.
un peu comme de reconstruction après-guerre.
Parce qu'aujourd'hui on est en sous-équipement et vous êtes dans une logique d'équipement.
On est
en
logique d'équipement, alors avec l'intérêt de pouvoir le faire, je dirais, dès aujourd'hui, dans le monde de demain ou d'aujourd'hui, hein, avec du bas carbone, des opérations intéressantes au niveau énergétique, mais avec le petit décalage intellectuel dit au fait que globalement la France est un pays aménagé et équipé. Donc aujourd'hui on est dans une transition. Nous on est dans une base... qui doit être quand même dans une transition.
Donc on l'amène déjà, on repense l'équipement déjà dans le contexte de cette
transition.
Alors
en fait, on le repense pas, on le pense directement
parce qu'il est inexistant.
C'est ça.
Ouais. Est-ce que la proximité avec la forêt amazonienne, qui est d'ailleurs le poumon vert de la planète, est-ce que ça force aussi à réfléchir forcément comme ça?
En fait, tous les aménagements en Guyane, enfin les nôtres en tout cas, sont extrêmement naturels, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a toujours 20 ou 30% d'espace vert. Autant que possible, on conserve la forêt originelle, tant qu'à faire. Hein, mais ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, de forêts, en fait, supportent mal d'être ensoleillés, même partiellement. Mais autant que possible, on le fait. Et il y a une attention particulière sur tout ce qui est continuité écologique, ce qui est vraiment important. Dans les zones urbanisées, je veux dire, ensuite sur le reste de la Guyane, puisque l'urbanisation est quand même sur le littoral très localisée sur 3 communes, on est dans la forêt, il y a zéro artificialisation, zéro agriculture.
J'allais vous demander justement sur ces enjeux écologiques, quels sont-ils ?
Aujourd'hui, les enjeux sont essentiellement de maintenir des continuités écologiques dans les zones qui sont urbanisées, avec la difficulté du fait que aujourd'hui, l'urbanisation majoritaire, c'est l'urbanisation illégale. Donc en fait, l'enjeu, je dirais, territorial, hein, et c'est pour ça que l'opération intérêt national a été créée, c'est qu'on puisse avoir une urbanisation légale qui soit plus rapide, ou en tout cas plus importante, que l'urbanisation illégale, ce qui historiquement n'est pas le cas.
D'accord. Aujourd'hui, on est quoi à peu près sur
aujourd'hui, depuis 20 ans, on y a à peu près 40 000 logements illégaux en Guyane. C'est presque la moitié du parc, c'est le tiers du parc. Hein, donc il y a pratiquement un Guyanais sur deux qui vit dans un logement illégal, informel, spontané. Enfin, il y a des tas de terminologies. Pas forcément insalubre, même si souvent c'est le cas. Et ce qui n'est quand même pas une situation satisfaisante. En tout cas, ce n'est pas gérable pour les collectivités.
Ah non.
D'avoir 60-70% de logements illégaux sur leur territoire.
Donc j'imagine que la problématique, c'est pas non plus de les contraindre, c'est aussi de les amener progressivement vers la légalité.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une offre légale,
crédible
en sens
qui donne pas envie d'aller vers l'illégalité.
Et surtout qui, en fait, il y a une pénurie de logements chez nous. Donc vous avez trois effets quasiment automatiques. Vous avez une spéculation, donc on a des loyers très élevés à 17 euros le mètre carré en moyenne, ce qui très élevé hein, pour un territoire aussi éloigné, et en général, vous avez une spéculation foncière, vous avez une suroccupation des locaux, et vous avez un développement d'habitat légal, parce que pour le coup, la Guyane, c'est très grand, et donc il y a un développement massif d'habitat spontané, fortement consommateur d'espace, parce que si on accepte des bidonvilles, on va dire, urbains, même en les comptant, en gros, l'urbanisation spontanée, c'est 3 logements hectares. Donc il y a un gâchis d'espace naturel, il y a un impact sur l'environnement important puisque c'est des grandes surfaces.
Oui.
Évidemment, il n'y a pas d'autorité environnementale pour l'habitat illégal.
Non, et j'imagine que oui, ils font un peu fi du respect des enjeux écologiques.
Oui, ou des réseaux, de l'assainissement. Enfin voilà, ça n'existe pas. Donc en fait, il faut l'aménagement légal permet d'abord d'avoir des services urbains, une qualité, et in fine pour les collectivités, un coût moindre. Non pas que l'habitat illégal, parce que l'habitat illégal, par définition, on n'y touche pas. Mais quand on va le retoucher pour faire des opérations de réhabilitation d'habitat illégal, d'habitat insalubre, là, pour le coup, ça coûte plus cher que de l'aménagement neuf. Donc, en fait, il y a vraiment un intérêt à agir qui est indiscutable pour les pouvoirs publics.
Vous dites qu'un grand plan a été lancé de développement.
C'est ça. En fait, donc fin 2016, donc en décembre. Donc il a été créé une opération d'intérêt national en Guyane pour pouvoir changer de braquet en fait sur l'aménagement public. Et donc il y a 24 secteurs qui ont été définis sur le littoral qui représentent un potentiel d'à peu près 21 000 logements sur 15 ans. C'est entre le tiers et la moitié de la demande, enfin en tout cas de la demande solvable de la Guyane.
Donc la Guyane 2030 est une terre d'innovation, une terre écologique ?
Alors on fait beaucoup d'innovations, d'ailleurs certaines fonctionnent, d'autres moins, hein. On a des choses qui ont bien fonctionné sur la façon de gérer les eaux par exemple, parce qu'il y a un gros enjeu de gestion de l'eau en Guyane, il pleut quasi 4 mètres par an, donc c'est un milieu équatorial, les terres sont basses, etc. Donc il y a un vrai enjeu. Là, on a fait des expérimentations qui marchent bien. On en a eu d'autres, par exemple de réutiliser des arbres coupés pour servir de support pour des réseaux électriques, qui à l'usage se sont avérés des échecs dû à l'hétérogénéité et l'impossibilité de le maintenir. Donc quand on expérimente, tout ne peut pas marcher.
Tout à fait. Et est-ce que la Guyane 2030, elle est aussi mieux connectée à son environnement, plus proche, plus indépendante, pas dans le sens politique, mais de la métropole
Alors, oui et non. Disons que par rapport à une quinzaine d'années, il y a des progrès indéniables. Pour autant, l'intégration régionale avec le Brésil ou le Suriname reste extrêmement faible. Les réseaux de transport terrestre ou même aérien sont assez faibles.
Ils sont difficiles déjà.
Ils sont difficiles, ou en panne. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on attend qu'un bac fonctionne sur le Maroni pour aller au Suriname. Mais c'est lié à la partie surinamienne qui n'a pas fait le port. Le port, la cale en question. Voilà, donc on est quand même un territoire qui, assez paradoxalement, est un territoire continental, mais qui, au niveau transport pratique, est un peu enclavé. Il y a beaucoup de flux commerciaux, par exemple, même du Brésil, qui passent par l'Europe ou la France continentale, si je puis dire, pour revenir, parce que les flux commerciaux directs, je dirais, sont en fait assez rares, même pour des produits tropicaux.
Alors là, on est aux entretiens du cadre de ville. Vous, Denis Giroux, quel objectif pour vous d'assister à ces entretiens?
Il y a deux intérêts. Hein. Le premier, c'est de faire un peu connaître la Guyane et ses enjeux, les aspects aussi paradoxaux de notre travail. pouvoir éventuellement être inspirant, parce que ce qu'on fait dans un climat, par exemple, qui est déjà équatorial, déjà tropical, déjà et des extrêmes, peut-être être utile pour des collègues qui sont ici et qui vont avoir tôt ou tard des températures qui ressemblent davantage à ce qu'on a à Cayenne que ce qu'on a à Paris aujourd'hui. Voilà, donc il y a ce premier aspect. Et le deuxième, bien sûr, c'est pouvoir rencontrer, voir l'état de l'art sur un certain nombre de sujets qui sont très importants pour nous, puisque, comme je l'ai dit, on a affaire de l'infrastructure de base, mais avec les normes d'aujourd'hui. Et les normes d'aujourd'hui, elles se définissent ici, même si toutes ne sont pas transposables en l'état, évidemment, chez nous, pour des raisons climatiques ou sociales ou économiques évidentes. Mais c'est un lieu extrêmement riche. En tout cas, c'est des rencontres à ne pas rater.
Et vous me disiez, ce sera ma conclusion, mais vous disiez que vous aviez les moyens de faire votre travail.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, l'État en particulier a tenu tous ses engagements par rapport à l'appui financier, notamment en particulier, qu'il y a pour l'opération internationale. Je pense que l'intérêt à agir et le coût de l'inaction est réellement pris en compte aujourd'hui sur ces aspects. Et je dirais, il faut que ça continue, bien sûr, puisqu'il est mieux vaut prévenir que guérir.
Merci beaucoup, Denis Giraud, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane.
Merci.
Les entretiens cadres de ville sur Radio Immo et Radio Territoria.